Europe 1, le 22-22-30,
Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue dans le journal de la nuit. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Moi, je suis très ému le soir quand il y a 700 personnes qui viennent me voir. C'est émouvant. En plus, ils vous applaudissent. Oui. Tout ça en payant.
Ah oui, bah...
hein? Bon, mais qu'est-ce que je fais? Moi, je m'amuse. C'est la récréation. Faut faire ça sérieusement, mais pas prendre ça au sérieux.
Il s'amusait sur les planches, sur les plateaux de cinéma. Il nous faisait rire, pleurer, voire pleurer de rire. Le comédien Claude Brasseur nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 84 ans. Nous lui rendrons hommage dès le début de ce journal. Feu vert pour les résidents français bloqués au Royaume-Uni. Ils pourront rentrer dès demain à condition de présenter un test négatif. Pour l'Allemagne, en revanche, c'est nine. Berlin prolonge la suspension des liaisons avec la Grande-Bretagne jusqu'au 6 janvier. Les États membres n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un protocole commun. Et en attendant, c'est le transport des marchandises qui en paye le prix. Nous irons à Valenciennes, où l'usine Toyota a stoppé sa production, faute de pièces. Dans ce journal également, J-5, avant les premières vaccinations en France. Dans les EHPAD, on attend maintenant les directives du gouvernement pour s'organiser. Les États-Unis, victimes d'une gigantesque cyberattaque, c'est tout l'appareil d'État qui est visé. Et puis le soulagement du foot français. Mediapro, c'est fini. Reste maintenant à trouver un nouveau diffuseur. Le temps de demain, ciel couvert, avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation et de fortes pluies dans le nord-ouest, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en hausse, plus 1,36% à 5 466 points. Tous les détails à venir avec Didier Hamot de boursier.com. L'interview écho dans 20 minutes. Quels sont les livres qui seront le plus sous les sapins à Noël? Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil reçoivent ce soir Pierre Courcière, président du Furet du Nord et de Décitre. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les plus jeunes se souviendront de lui comme Jackie, un vacancier attaché à son emplacement dans camping. D'autres l'auront découvert jouant le père de Sophie Marceau dans La Boum ou comme le sensible Daniel dans Un éléphant, ça trompe énormément. Claude Brasseur a marqué les générations. Il s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 84 ans. Acteur populaire, polyvalent, aussi à l'aise dans le registre dramatique que la comédie, Claude Brasseur a tourné dans plus de 100 films. Mais c'est à la télévision que sa carrière a décollé, Diane Chenouda.
Et oui, c'est le générique des nouvelles aventures de Vidocq qui a fait connaître Claude Brasseur à la télévision avant qu'il ne triomphe au cinéma comme sur les planches. On se souvient tous de sa voix rocailleuse et de cette étincelle dans les yeux. Le fils du grand comédien Pierre Brasseur était tombé dans le théâtre depuis tout petit.
Un jour, on m'a dit, on va aller voir papa travailler. Oh là là, ça me faisait chier. J'ai vu un espèce de grand truc. Et puis mon père, je me souviens, il avait un casque et une épée. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il répétait toujours la même chose. Et puis en fait, j'ai assisté pour la première fois de ma vie à des répétitions de théâtre. Je me suis dit, mais c'est vachement plus marrant que la réalité.
Oui. Claude Brasseur, au micro de Nathalie Saint-Cricq sur Europe 1, c'était en 2008. Il excellait autant dans les polars que les comédies, comme un éléphant, ça trompe énormément.
Qu'est-ce que tu prends, André?
Un pastis.
Deux pastis.
René!
Oui?
Je suis bien.
Film qui lui avait valu le César du meilleur second rôle, il décrochera un deuxième César, cette fois du meilleur acteur dans La Guerre des Polices. Puis il va marquer le public avec La Boum, bien sûr, dans le rôle du père de Sophie Marceau.
Bon, puis ça suffit. Avant tout, une règle. T'es malade, en panne, enceinte, droguée, un coup dur, tu téléphones.
Mais c'était pas des coups durs, justement, parce qu'on était bien, j'étais heureuse et j'avais pas envie d'entrer. Même si je savais que vous soyez inquiet et que t'allais m'engueuler.
Allez, file. L'emmerdement commence.
Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
Elle est heureuse.
Claude Brasseur, en râleur irrésistible dans Camping, évidemment.
On est bien là, maman, hein? Les flots bleus, hein? C'est quand même une merveille. Maman! Je crois que ça va être encore une année compliquée.
Brasseur sera inoubliable aussi en Fouché, face à Claude Rich dans Le Souper, juste avant de triompher avec Le Dîner de cons au théâtre.
Diane Chenouda, écoutez la réaction de Philippe Labro, réalisateur de La Crime, film policier sorti en 1983 avec Claude Brasseur dans le rôle principal.
Je retiens un goût du rire, un goût de la camaraderie, du jeu. Il le disait toujours, il aime jouer, et pas seulement jouer sur scène, car n'oubliez pas que c'est un très très bon acteur de théâtre, mais jouer dans la vie, très bon vivant. Il était passionnant sur son métier, sur cet artisanat dont il considérait qu'il était un des membres. Il n'a jamais voulu prendre une situation, une position de star. C'est pas dans cette génération-là, il y a eu une ou deux stars, hein, et en particulier, bien sûr, Belmondo et Delon. C'est pas ça, Brasseur, c'est autre chose. Mais sa simplicité, sa gentillesse, ça fait partie aujourd'hui de ce qui va devenir la grande nostalgie de ces années-là.
La réaction de Philippe Labro à la disparition de Claude Brasseur, entretient au micro Europe 1 de Yasmina Katou.
Europe 1, le 22-22-30, Julien Pierce.
Si l'Europe a fait preuve d'une coopération exemplaire sur la question des vaccins, l'apparition d'une nouvelle souche du Covid au Royaume-Uni a fait voler en éclats ses efforts. La Commission européenne a beau avoir demandé cet après-midi la reprise du trafic vers la Grande-Bretagne. Chaque pays membre gère la situation de son côté, notamment l'Allemagne, on va y revenir. Côté français, le gouvernement a autorisé ce soir le retour de nos ressortissants bloqués au Royaume-Uni. Ils pourront rentrer dès demain matin, mais avec une condition qu'a précisé ce soir Jean-Baptiste Djebbari, le ministre des Transports.
À la fois les ressortissants français, mais aussi les résidents en France et ceux qui ont un motif légitime pour se déplacer, pourront reprendre ces transports sous réserve d'être munis d'un test, qu'il soit PCR ou antigénique. Il y a une liste de tests antigéniques qui sont qualifiés et toutes les informations vont être communiquées à cet égard, à la fois par les opérateurs de transport, mais bien sûr et bien évidemment aussi par les autorités consulaires et l'ambassade du Royaume-Uni. Et s'agissant des transports de marchandises, nous finalisons un protocole qui sera communiqué plus tard dans la soirée et j'invite d'ores et déjà les routiers à ne pas se déplacer et à attendre les annonces qui seront faites plus tard de façon conjointe avec les autorités britanniques.
Le ministre des Transports chez nos confrères de BFM, on vient de l'entendre, les règles concernant les chauffeurs routiers seront précisées dans la soirée. En attendant, c'est le chaos des deux côtés de la Manche, des milliers de camions s'entassent faute de pouvoir traverser, le transport des marchandises est quasiment à l'arrêt. Alors en cette période de Noël, on pense avant tout aux produits frais, au saumon d'Écosse par exemple, que l'on aime avoir sur nos tables au réveillon. Mais cela concerne aussi l'industrie. L'usine Toyota d'Onin, près de Valenciennes, a fermé cet après-midi, un jour plus tôt que prévu, faute de pièces. Plus rien donc ne sort des chaînes d'assemblage, Lionel Gougelot.
Oui, effectivement, 13h30, c'est l'heure à laquelle sont sortis les derniers salariés de l'équipe du matin après l'arrêt pur et simple des chaînes d'assemblage de la Yaris.
On n'était pas au courant du tout. Du jour au lendemain, on nous dit qu'on ferme. Donc nos pièces n'arrivent pas, donc on peut plus produire.
Rupture d'approvisionnement de pièces bloquées en Grande-Bretagne. La direction ne pouvait pas faire autrement que de stopper la production. Jean-Christophe Deville, vice-président chargé de l'administration de l'usine Toyota.
On a des composants de taille assez conséquente. Par exemple, les phares arrière sont des phares qui sont fabriqués en Angleterre. Nos systèmes de chauffage et de climatisation aussi. Mais il suffit qu'il y ait un composant majeur parmi les milliers de pièces qui manquent pour qu'on ne puisse pas finir l'assemblage de nos véhicules. Après, on espère évidemment que la situation va se débloquer au plus vite. On doit penser aussi à nos clients qui attendent nos véhicules et donc à faire redémarrer nos lignes dès que c'est possible.
Aucune répercussion sur le salaire des ouvriers, mais des congés au goût amer. Les 2000 véhicules non produits ces jours-ci devront être rattrapés en janvier.
Il va falloir rattraper le temps perdu et forcément, il faudra produire plus l'année prochaine. Donc faire des samedis et des dimanches.
Dès qu'il y a un petit grain de sable dans la machine, tout s'arrête. Le problème, c'est que c'est nous les ouvriers qui allons traquer justement pour rattraper cette production qui ne va pas être faite demain et voir la semaine prochaine comment ça va se passer, on ne sait pas ça.
Et pour avoir confirmation de la reprise de la production lundi prochain, les salariés devront ce week-end appeler un numéro de téléphone vert.
Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France. Direction maintenant l'Allemagne, que l'on présente souvent comme le moteur de l'Europe. Et bien avant même que Bruxelles tente d'établir une position commune vis-à-vis du Royaume-Uni, Berlin a dit nein. Hélène Kohl, le gouvernement allemand, a décidé de prolonger la suspension de ses liaisons avec la Grande-Bretagne jusqu'au 6 janvier.
Oui, l'Allemagne est sur la ligne dure. Il n'y a même pas d'exception prévue pour les personnes résidentes en Allemagne qui voudraient rentrer chez elles d'ici la fin de l'année. Officiellement, tout ceci, c'est uniquement par précaution, en attendant d'en savoir plus sur cette nouvelle variante du virus. On comprend la démarche de prudence. L'Allemagne a peur, surtout qu'elle a beaucoup de mal en ce moment à gérer la deuxième vague de l'épidémie. Mais tout de même, cette décision unilatérale est assez cavalière. Une décision qui surprend d'autant plus de la part du pays qui exerce actuellement la présidence tournante de l'Union européenne, qui devrait justement plutôt veiller à ce que les 27 répondent de manière coordonnée à cette nouvelle crise. Et puis en plus, il faut le rappeler, l'Allemagne avait déjà l'un des délais de précaution les plus longs. La France, par exemple, a suspendu les liaisons avec la Grande-Bretagne pendant 48 heures dans un premier temps. Et bien, dès ce week-end, Berlin directement avait annoncé que tout serait bloqué jusqu'au 31 décembre. Il n'y avait donc aucune urgence à annoncer un report de la date du 31 décembre au 6 janvier et surtout pas à le faire le matin même de cette réunion à Bruxelles, qui avait vraiment pour but d'harmoniser la réponse européenne. Il n'en est rien, l'Allemagne n'a pas bougé et avec elle, il y a d'autres pays comme l'Espagne, par exemple, tandis que la France a plutôt suivi la recommandation de la Commission.
Merci beaucoup Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 à Berlin. Si ce blocus sanitaire ressemble furieusement à ce que pourrait donner un Brexit dur, les négociations sur l'accord commercial, elles, n'avancent toujours pas. La preuve, l'Union européenne se dit ce soir prête à négocier jusqu'à la fin de l'année et au-delà. Retour en France, où la campagne de vaccination contre le Covid doit débuter dimanche. Démarrage en douceur dans les EHPAD, les doses doivent bientôt y arriver, les plus âgés seront prioritaires, ça c'est la théorie. Reste maintenant à mettre tout ça en pratique, Anne Le Gall.
Exactement, et les directeurs d'EHPAD attendent très concrètement deux documents pour passer à l'organisation logistique. D'abord, que le ministère de la Santé leur délivre, d'ici la fin de la journée normalement, un guide pratique de 40 pages pour cette vaccination. Il devrait contenir des informations sur le stockage des vaccins, la consultation pré-vaccinale, le type de seringue et aiguille à utiliser par exemple. Et puis, autre document indispensable, c'est l'avis de la Haute Autorité de Santé. Il sera rendu public, lui, après-demain au plus tard, explique Florence Arnaise-Maumet, la déléguée générale du CINERPA qui représente les maisons de retraite privées. C'est à partir de ces documents que les EHPAD pourront commencer le recueil des consentements.
Il faut donner les explications à la personne âgée, à sa famille, laisser un délai raisonnable d'intégration de ces informations, puis demander l'accord. Nous devons l'intégrer dans le dossier médical.
En fonction du nombre de volontaires, les EHPAD pourront ensuite commander le bon nombre de doses, organiser le planning des médecins pour les injections, sachant que le vaccin ne se conserve que 5 jours dans un frigo classique. Et quelques maisons de retraite seront effectivement prêtes à démarrer dès dimanche prochain la vaccination. Mais ce sera à la marge et sur la base du volontariat. Le déstockage massif des doses de vaccins devrait plutôt lui se faire autour du 10-15 janvier.
Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. Près de 12 000 nouveaux cas recensés ces 24 dernières heures, 386 décès supplémentaires. Le virus est plus que jamais actif dans notre pays, notamment dans le Grand Est. Et cela inquiète au plus haut point le maire de Nancy, où le taux d'incidence a plus que doublé en 10 jours. Mathieu Klein demande au gouvernement d'annoncer rapidement un nouveau confinement qu'il propose de débuter dès le 28 décembre. L'élu constate d'ores et déjà un accroissement du nombre de patients hospitalisés. Et puis près de 700 travailleurs étrangers vont être naturalisés français, annonce le gouvernement. Naturalisation réservée à celles et ceux qui ont été en première ligne durant l'épidémie et qui ont, je cite, montré leur attachement à la nation.
Europe 1, le 22-22-30.
Les États-Unis victimes d'une gigantesque cyberattaque et c'est le cœur même de l'appareil d'État qui est visé. De nombreux ministères touchés, la liste s'allonge de jour en jour. Alexis Guilleux, vous êtes notre correspondant aux États-Unis.
Oui, et depuis les premières révélations il y a 10 jours, les détails s'accumulent. On a appris que les hackers ont piraté les boîtes mail des plus hauts responsables du département du Trésor. C'est l'un des ministères américains les mieux protégés puisque c'est d'ici que sont prises par exemple les décisions qui concernent la Banque centrale ou alors les sanctions économiques vis-à-vis des pays étrangers. À cela s'ajoutent des attaques contre les départements du commerce, de la sécurité intérieure, du Pentagone. Des milliers d'entreprises sont également touchées. En fait, les pirates ont utilisé la technique du cheval de Troie pour installer un code malveillant dans une mise à jour d'un logiciel qui est très répandu. Et ils ont pu ainsi mener leur opération d'espionnage pendant plusieurs mois, et tout ça sans être repérés. Alors aujourd'hui, quasiment tous les soupçons sont portés sur la Russie. Ces derniers jours, le ministre de la Justice et celui des Affaires étrangères ont fait savoir que Moscou était vraisemblablement responsable, mais le Kremlin a fermement démenti. En fait, la seule voix dissonante dans cette histoire, c'est celle de Donald Trump, qui a écrit sur Twitter ce week-end que cette attaque pourrait venir de Chine. En tout cas, dès la semaine dernière, Joe Biden, le président élu, a promis que les responsables de ce piratage en paieront le prix.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Retour en France avec du nouveau dans l'affaire Michel Zecler. Ce producteur de musique roué de coups à Paris par des policiers le mois dernier, eh bien les juges ont ordonné aujourd'hui la remise en liberté des deux fonctionnaires qui avaient été écroués. Ils sont désormais soumis à un contrôle judiciaire strict avec interdiction notamment d'entrer en relation avec la victime. Le collège à Conflans-Sainte-Honorine où enseignait Samuel Paty a porté plainte après avoir reçu un message vocal, message constitué d'insultes et de menaces visant l'établissement et l'accusant en substance de laxisme dans la défense du professeur assassiné. Une enquête a été ouverte. L'épilogue d'un fiasco, le tribunal de commerce de Nanterre a validé l'accord financier passé entre Mediapro et la Ligue de football professionnelle. Elle récupère donc ses droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2 et va tenter maintenant de trouver un nouveau diffuseur. Tous les regards se tournent naturellement vers Canal+, le partenaire historique, mais ça ne s'annonce pas aussi simple que ça, Cyril de la Morinerie.
Oui, Canal+ est attendu en sauveur, mais le diffuseur historique ne fera pas de folie. Il n'a d'ailleurs aucune raison de casser sa tirelire. D'abord parce que Canal se retrouve en position de force après le fiasco Mediapro, et puis surtout parce que l'objectif du côté des dirigeants de la chaîne cryptée, une source bien informée me l'a confirmé cet après-midi, ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Canal propose déjà 2 matchs achetés 330 millions d'euros, et la Formule 1 fait de meilleures audiences que le football. On évoque une enveloppe de 600 millions d'euros pour acheter les droits laissés par Mediapro. Les négociations vont démarrer, mais d'ores et déjà, les présidents de clubs sont soulagés. Jean-Pierre Caillot, président de Reims et qui représente les formations de Ligue 1, espère que Canal+ sera au rendez-vous.
Il y a eu quelques incompréhensions. Heureusement, aujourd'hui, Vincent Labrune a su recréer un climat de confiance avec les gens de Canal+. La situation est évidemment délicate pour une négociation, mais il n'est pas de l'intérêt de Canal+ non plus de tuer le produit foot Ligue 1.
La Ligue pourrait lancer un nouvel appel d'offres ou discuter de gré à gré avec les acteurs du marché. Canal n'est pas la seule option. Bein Sport pourrait être intéressé, notamment par le multiplex du dimanche après-midi, ou Amazon, qui vient tout juste d'acheter les droits de la Ligue des Champions en Italie.
Cyril de la Morinerie. On passe à la météo, Anissa Haddadi. Le temps demain sera plus couvert et humide.
Oui, avec encore demain, Julien, effectivement, au nord de la Loire, hein, de la Bretagne à l'Alsace, un temps encore couvert demain toute la journée, avec des pluies qui vont se décaler au fil des heures vers l'est et vers le sud. En Bretagne, attention, le vent de sud-sud-ouest souffle toujours sur les côtes et il se renforce dans l'après-midi et va envahir toute la moitié nord avec des rafales jusqu'à 60 km/h. Sur la moitié sud, là, le temps est un petit peu plus calme, pas aussi beau qu'aujourd'hui, avec dans le Pays Basque quelques averses. Au bord de la Méditerranée, le soleil est souvent masqué par des passages nuageux. Vous l'avez compris, le temps est en train de se dégrader doucement mais sûrement. Les températures, elles sont toujours bien au-dessus des normales de saison. Avec 3 à 12 degrés demain matin, c'est à Paris qui fera le plus chaud avec 12 degrés. Et puis nous aurons 13 à 20 degrés au meilleur de la journée. 13 à Brest, 15 à Paris et Lyon et jusqu'à 20 degrés dans le sud-ouest.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse. Top à Wall Street avec Didier Hamot de Boursier.com, suivi de l'interview Echo. Quels sont les livres qui seront sous les sapins à Noël? Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil reçoivent ce soir Pierre Courcière, président du Furet du Nord et de Décitre. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Peirce.
22h18 sur Europe 1, c'est l'heure de Top à Wall Street. Toutes les infos de la bourse avec vous, Didier Hamot de Boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street hésite, mais Apple se distingue grâce à ses projets de voitures électriques.
Oui, un marché contrasté ce soir. Le Dow Jones en baisse, moins 0,67%, 30 015 points sur la barre des 30 000 points. Le Dow Jones en baisse donc, mais le Nasdaq, oui, en hausse de 0,51%, 12 808 points. Apple grimpe de 2,7%. C'est Apple qui fait le show aujourd'hui. 131,72 $. Selon le projet appelé Titan, le groupe vise effectivement la production d'une voiture électrique d'ici 2024 avec une batterie développée par ses soins aux capacités largement améliorées. C'est du moins la promesse du groupe. Donc ça dope le titre Apple de nouveau de 2,7%. En revanche, Tesla, le fabricant de voitures électriques, en prend ombrage et recule d'1,7%, 638,80 $. Ce soir d'ailleurs, le patron de Tesla, Elon Musk, a tweeté une information assez intéressante puisqu'il révèle avoir approché Apple en vue d'un rachat de Tesla. C'était il y a quelque temps déjà. À l'époque, Tim Cook, le patron d'Apple, n'était pas intéressé donc par un rachat du groupe Tesla. Le pétrole ce soir revient en arrière sous les $50 le Brent. On est à $49,90 $ et puis l'euro reste assez ferme au-dessus des 1,21 $, 1,21 $50 face au dollar.
La bourse de Paris a regagné un peu de terrain après sa grosse chute d'hier.
Oui, ça avait beaucoup baissé hein, hier sur les craintes concernant la situation sanitaire en Angleterre en particulier. La bourse de Paris a refait la moitié du chemin perdu. On est remonté d'1,36% sur le CAC 40, 5 466 points. Un rebond sur des achats à bon compte de fin d'année. On a quelques gros dossiers et qui sont remontés comme Peugeot, plus 2,5% après la validation par l'Union européenne de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler pour donner naissance à Stellantis, donc, qui deviendra le numéro 3 mondial du secteur automobile. Et puis des rebonds aussi sur de grosses valeurs comme Danone, plus 2%, Sanofi, plus 2% aussi avec la Société Générale, ou Euronext qui remonte sur les 90 euros.
Exception du jour, Didier, le secteur pétrolier qui ne profite pas du rebond boursier.
Oui, on en parlait tout à l'heure, ça baisse sur le pétrole, il y a des prises de bénéfices. Il faut dire que le baril était bien remonté ces dernières semaines. Donc on repasse sous les $50 le baril de Brent, on est à $46.90 le baril WTI aux États-Unis, et donc ça plombe la tendance sur les valeurs parapétrolières, en particulier les services pétroliers comme Vallourec, moins 0,9%, le groupe tubiste, CGG, moins 0,5%, on a aussi Morel et Pro, moins 1,4%, et puis Technip, du côté de l'ingénierie pétrolière, moins 2%, Technip à 8,95 €. Sur les autres places financières, donc, on rebondit, ça remonte. Sur le DAX à Francfort, plus 1,3%, Madrid, plus 1,8%, Bruxelles, plus 1%, Londres, plus 0,5% seulement. On rappelle le CAC 40, donc en hausse d'1,36%, 5 466 points.
Merci beaucoup Didier Hamo de boursier.com et à demain Didier. 22h21 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, Elisabeth Assayac, c'est à vous.
Bonjour Pierre Courtière.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le PDG de la librairie Le Furet du Nord. Le Furet du Nord, c'est une chaîne de librairies dont la première a été installée à Lille en 1959. Celle de Lille fut même à un moment donné la plus grande librairie d'Europe. Le Furet du Nord, c'est aussi 2 sites. En tout, vous avez 31 points de vente partout en France. Alors Pierre Courtière, les libraires ont été vent debout. On les a entendu face à la fermeture de leur magasin lors du deuxième confinement, parce que dans cette crise, il y a un géant très menaçant pour vous, c'est Amazon. La profession a donc décidé de ne pas se laisser faire. Comment ça va en cette fin d'année 2020 ?
Très bien, ça va très bien. Les ventes après le confinement sont très bien reparties. Et grâce à nos sites internet de vente à domicile furet.com et deux sites.fr, ça nous a permis de rester, y compris pendant le confinement, en lien avec nos clients et bien évidemment via le click and collect avec les clients directement en physique dans les magasins.
Quand vous dites ça va très bien, c'est-à-dire que ce Noël 2020 va être meilleur que le Noël 2019 ?
Alors évidemment, il faut n'oublions pas le fait qu'on a été confiné pendant le mois de novembre et au printemps, mais par rapport à d'autres professions et d'autres distributeurs spécialisés, il faut savoir reconnaître notre chance. Et notre chance, c'est qu'après le confinement, les clients sont tous revenus massivement acheter des livres.
Mais si on regarde que le mois de décembre, sera largement meilleur que décembre 2019.
Oui, ça je vous le confirme. Il y a un effet rattrapage sur le mois de novembre. Donc le mois de décembre se passe très bien pour les libraires en général.
Donc quand vous dites que ça se passe très bien, ça signifie que ce confinement, ça a été l'occasion pour les Français de reprendre goût à la lecture, et vous le constatez dans les achats. Il y a des achats en particulier qui prennent le dessus sur d'autres.
En fait, ce goût de la lecture est revenu très fort après le premier confinement. On s'est vraiment rendu compte à la sortie du confinement du printemps que le livre était revenu au centre du jeu, que les clients redécouvraient ce produit, redécouvraient le plaisir d'ouvrir un livre. Et du coup, sorti du premier confinement où toutes les librairies, pour le coup, étaient vraiment fermées, sans click and collect pour la plupart, on a vu massivement arriver des clients et ça a duré. Enfin voilà, le marché.
Ça dure jusqu'à maintenant.
Exactement.
Alors qu'est-ce qui se vend le mieux ? On achète quoi aujourd'hui ?
On achète de tout. On achète de tout. On achète de la littérature. On achète du roman policier. On achète de la bande dessinée. On achète de la jeunesse, bien sûr. En fait, le livre aujourd'hui, il remplit beaucoup de choses. Il permet de s'évader. Il permet de s'instruire. Il permet de se renseigner. Il permet de comprendre les problématiques d'aujourd'hui. Et jusqu'à présent, l'ordinateur, le téléphone chez soi était quelque chose de plutôt ludique. Avec l'arrivée du télétravail, les gens ont redécouvert le fait de réouvrir un livre. C'est vraiment une parenthèse dans un monde d'écran qui n'est plus simplement ludique à domicile.
De ce que vous dites, finalement, ouvrir un livre à la fin d'une journée de travail, c'est comme si on faisait la transition entre ces deux journées, on pourrait le dire comme ça ?
Exactement, exactement. Et ça, tout le monde le dit, nos clients nous le disent. Et ce qui est très intéressant, on a aussi des clients qu'on voyait peu ou pas, notamment une certaine tranche de jeunesse qui a redécouvert le livre et qui revient massivement dans les librairies. Et ça, pour nous, c'est une vraiment bonne nouvelle.
Mais quand vous dites redécouvrir, on a quand même toujours été un pays de lecteurs si on compare à ce qui se passe un peu partout dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que des gens qui avaient un petit peu abandonné la lecture ou qui n'étaient plus passionnés par cela sont revenus dans vos librairies et réachètent.
Tout à fait. Ils nous le disent d'ailleurs. J'avais laissé un peu tomber de côté la lecture. Voilà, j'étais sur mon PC, sur mon téléphone, à faire des jeux vidéo, enfin, d'autres choses. Hein. Et j'ai redécouvert le fait de me replonger. Les confinements ont redonné aux gens des temps longs qui permettent de rentrer dans une histoire. Enfin, bref, la beauté du livre.
Et dans ce temps long, est-ce que les auteurs classiques ont aussi leur public aujourd'hui?
Oui, tout à fait.
Parmi ces nouveaux clients.
Alors, les auteurs classiques... notamment via le livre numérique, puisqu'on offre toute une série d'auteurs classiques via notre offre numérique. Un certain nombre de jeunes, notamment, ont découvert des classiques gratuitement sur une offre numérique. Et puis, encore une fois, tout fonctionne, suivant vos goûts, et que vous soyez fier d'histoire ou de fiction. Voilà,
tout fonctionne, mais est-ce qu'il y a quand même la petite surprise de Noël que vous-même et que vos libraires n'avaient pas vu venir? Est-ce qu'il y a ce livre un peu événement de cette fin d'année?
Alors, le livre événement de l'année, c'est intéressant parce que ça dit bien ce qu'on a dû faire pendant le confinement, c'est le Cyril Lignac. Voilà, Cyril Lignac a sorti trois livres de cuisine qu'il a concoctés pendant les confinements, du premier jusqu'au dernier. Et voilà, son tome 3 cartonne. Mais parce que ça dit beaucoup de choses sur le fait que ce confinement a permis à chacun de se retrouver à la maison, de retrouver des gestes simples. Et le rayon cuisine est absolument... un carton de maximum, parce que les gens se sont remis à faire de la cuisine. Donc voilà, le Lignac fait partie de ces surprises.
C'est toujours le cas, mais je crois que cette année, particulièrement, le Goncourt est un véritable carton cette année. Ça se vérifie chez vous?
Je vous confirme, l'anomalie d'Hervé Le Tellier est le premier livre qui est vendu au mois de décembre.
Ce qui est souvent le cas pour un Goncourt, mais là, semble-t-il, on est dans des proportions assez importantes.
Oui, en plus, le jury nous a fait un beau cadeau, c'est qu'il nous a proposé un Goncourt qui est accessible à beaucoup de lecteurs. Et je vous le confirme, je suis en train de le lire et il est passionnant.
Merci beaucoup Pierre Coursière, PDG du Furet du Nord et de Site. Merci à vous Elisabeth Assaeg. On se retrouve demain, 13h pour La France Bouge. Et ce sera une émission spéciale, on sera au marché de Rungis.
Merci à vous deux, Emmanuel Dutheil, Elisabeth Assaeg. Et à demain, restez avec nous. Dans un instant, on va découvrir ensemble les unes de la presse de demain. À tout de suite. 22h28 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. L'irrésistible escalade de la dette française, titre Les Échos qui consacrent leur une à ce chiffre vertigineux. 2674 milliards d'euros, soit 116,4% du PIB. Et c'est le niveau record que vient d'atteindre notre dette. Les Échos qui s'intéressent également à des soupçons de fraude à l'apprentissage dans les écoles de commerce. Certaines auraient indûment déclaré certains de leurs étudiants comme apprentis en recherche de contrat pour toucher des aides. En l'occurrence, 500 € par mois et par étudiant. Et cela concernerait environ 5000 jeunes, selon le ministère du Travail. Le décès aujourd'hui de Claude Brasseur est évidemment à la une de plusieurs de vos quotidiens. Un acteur si populaire, titre Ouest France, au paradis des comédiens, écrit de son côté Le Figaro. Qui, sérieusement, pourrait ne pas aimer cet acteur à la gueule cassée et à l'œil pétillant, écrit Laurent Mondin dans l'Alsace. Claude Brasseur était un ami de la famille, l'homme que chacun avait envie d'appeler Claude et non Monsieur Brasseur, tant il faisait partie de notre vie et de l'histoire collective de la France, ajoute l'éditorialiste. C'était l'un des derniers Mohicans de cette génération exceptionnelle dont il ne reste plus que Delon et Belmondo. Emmanuel Macron et la fièvre de 2022, c'est le titre de l'édito de l'Opinion. Nicolas Bétou remarque que le chef de l'État n'aura jamais été aussi présent dans les médias que depuis qu'il s'est isolé dans sa résidence de la Lanterne. Interview au Point, puis l'Express, intervention vidéo d'une durée inhabituelle en ouverture d'un conseil des ministres. Emmanuel Macron balaye large avec un objectif de plus en plus perceptible, accélérer le travail de construction de son bilan à la tête du pays et nourrir sa stratégie pour une réélection en 2022. Voilà l'analyse de l'éditorialiste de l'Opinion. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien.
Comment allez-vous?
Écoutez, ma foi, tout va bien.
Tant mieux. 3921 pour vous appeler et témoigner dans la libre antenne, et ce jusqu'à 1h du matin.
Exactement. Et nous, on se retrouve à 23h pour le flash. À tout à l'heure.
À tout de suite.